Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Dès l'annonce d'un possible accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, à compter de dimanche, ces Palestiniens de la bande de Gaza ont laissé éclater leur joie hier soir.
Le génocide contre notre peuple va enfin se terminer.
Nous sommes très heureux de cet accord. Il nous donne de l'espoir pour l'avenir de Gaza.
À une centaine de kilomètres de là, à Tel Aviv, les familles des otages du Hamas ont accueilli l'accord avec plus de retenue et d'inquiétude. Dans un premier temps, seules 33 personnes devraient être libérées au compte-gouttes en échange de prisonniers palestiniens.
Ce n'est pas de la joie, c'est un soulagement amer.
On ne sait pas qui sont les otages sur la liste, quand est-ce qu'ils reviendront et s'ils sont encore vivants.
Donald Trump, qui sera investi lundi, a été le premier à confirmer hier l'accord de cessez-le-feu, validé sur le principe quelques heures plus tôt par le Hamas et Israël. Suivi de Joe Biden, qui termine son mandat sur des promesses de paix au Proche-Orient.
Durant les prochaines 6 semaines, Israël va négocier les nécessaires arrangements pour obtenir la phase 2, qui est une fin permanente de la guerre. Laissez-moi le dire encore, une fin permanente de la guerre.
L'accord, sous le patronage des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, prévoit au total 3 phases, dont les axes principaux sont la libération des premiers otages, le retrait complet de l'armée israélienne, puis la reconstruction de la bande de Gaza. Une fenêtre d'opportunité à saisir, assuré hier le président israélien.
C'est un bon choix, c'est un choix important, un choix nécessaire.
Alors, une trêve qui divise en Israël la rue et le gouvernement peut-elle être respectée? Peut-il y avoir un effet Trump au Proche-Orient? Après 15 mois de conflit, une paix durable est-elle à portée de main?
Nos 3 invités, Jean-Paul Chagnolo qui range son téléphone, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, apparaître très prochainement en février, Jean-Paul Chagnolo, votre atlas des Palestiniens aux éditions Autrement. Selon vous, cet accord de cessez-le-feu aurait pu être signé depuis bien longtemps. Il est clair que l'arrivée de Donald Trump et ses pressions sur Netanyahou ont joué un rôle important. Le timing n'est donc pas une coïncidence. À côté de vous, Michel Taubman, bonsoir. Journaliste franco-israélien, responsable du Proche-Orient à la revue Politique Internationale et fondateur de l'association de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Selon vous, que les combats cessent, c'est positif, il faut s'appuyer sur les anciens membres de l'autorité palestinienne pour reconstituer une administration civile et se consacrer à reconstruire Gaza. Et à côté de vous, Patricia Alémonière, bonsoir Madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre essai « Au cœur du chaos » est paru chez Artaud. Selon vous, les gagnants de cet accord, ce sont les familles des otages et le peuple palestinien. Néanmoins, tout cela est plus que fragile, avec d'un côté Mohamed Sinwar, qui a pris le relais à Gaza, de son frère, cerveau des attentats du 7 octobre, et de l'autre côté, Benjamin Netanyahou. Vous ajoutez, nous sommes mal partis, semble-t-il, pour arriver à des accords sur la paix. Et on démarre avec le chiffre du jour.
Oui, après 467 jours de guerre, plus de 15 mois, un accord de cessez-le-feu a donc été conclu entre Israël et le Hamas, sous l'égide des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Mais tout est loin d'être encore ficelé. Hein. Il doit encore y avoir des négociations sur les 2 séquences qui devraient suivre les premières libérations de dimanche. Ça reste donc un accord fragile, Michel Taubman. Et encore en discussion, donc il faut rester prudent sur cet accord et sa réalisation, sa mise en œuvre.
Oui, l'accord a été annoncé, mais il n'a pas été signé. L'accord a été annoncé par... il a fallu 2 présidents américains, hein, Donald Trump et Joe Biden. Il y a un effet communication extraordinaire de la part de Trump. Ça rappelle ce qui s'était passé il y a très longtemps, en 81, avec Ronald Reagan, qui avait obtenu, in extremis, la libération des otages, des 60 d'otages américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Et il avait obtenu par un accord avec les Mollahs le 21 janvier, le jour de son investiture. Alors, ça, c'est le point commun. Il y a une opération de communication de Trump. Maintenant, sur l'avenir, l'avenir est plus qu'incertain, y compris l'avenir immédiat.
Mais sur l'accord, Jean-Paul Chagnolo, pour l'instant, en fait, personne ne l'a vraiment vu, cet accord. Il y a 3 séquences. Il va falloir, encore une fois, négocier chaque séquence. Rien n'est acquis jusqu'à la fin du processus qui est visiblement enclenché.
Vous savez, c'est une affaire qui dure depuis un siècle. Alors imaginez qu'on va régler ça en quelques jours, les mêmes problèmes ressurgissent. La matrice de cet accord, c'est en fait une résolution qui date du mois de juin, et sur la base d'un accord qui date du mois de mai, qui était ce que voulait faire Biden. C'est la matrice, c'est-à-dire qu'on retrouve les éléments, c'est-à-dire on va faire en sorte que des otages soient échangés. Alors on parle d'une trentaine d'otages contre des centaines de prisonniers palestiniens. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est très important pour les Gazaouis, c'est qu'il y ait une véritable aide alimentaire puissante. Pour donner un chiffre, il y a 60 camions, il y en aurait 600 si ça fonctionnait. Et puis évidemment, le troisième point, c'est le retrait des troupes israéliennes. D'où, comment et quand. Donc voilà, ça c'est les schémas. Et après...
Et après la reconstruction...
Rien que dans ce schéma-là, il y a toute une série de phases. Il faudrait distinguer les étapes et les phases. Donc, par exemple, si je prends la question du retrait des troupes israéliennes, elles vont partir du nord, elles vont partir du sud, Philadelphie, elles vont partir du centre...
Le corridor en principe, de Philadelphie.
Oui, ça c'est le sud. Oui. Le Netzarim, c'est au milieu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la zone tampon. Là, ils resteraient. Donc vous voyez, on est dans ces... Mais est-ce qu'ils vont partir comme ça aussi vite? C'est pas sûr. Et ensuite seulement, on parlera des autres questions les plus fondamentales, c'est-à-dire la reconstruction, et puis naturellement la question politique,
ça, on va y
la gouvernance.
Mais, Patrice Salé-Monnière, qui va surveiller l'application de cet accord? Est-ce que ce sera aussi le Qatar et l'Égypte? Comment ça va s'articuler? Est-ce qu'on le sait vraiment ou pas vraiment?
Alors, on sait peu de choses. On sait effectivement les trois grandes phases qu'on vient d'expliquer. La première phase, on vient de le dire, c'est otages et nourriture, pratiquement, voilà.
Aide alimentaire et humanitaire.
Aide alimentaire, échange d'otages et prisonniers. Deuxième phase, effectivement, c'est retrait des forces militaires, etc. Et on rend les corps. Et troisième phase, effectivement, c'est là, on s'occupe de la reconstruction. Donc, vous savez, à tout moment, c'est ce que je dis, à partir de maintenant, au moment où on se parle, à tout moment, ce cessez-le-feu peut dérailler. Il suffit que quelqu'un tire une roquette, parce qu'il y a encore des roquettes à Gaza, sur Israël. Il suffit qu'Israël, un illuminé, s'en prenne à des Palestiniens. Enfin, à tout moment, parce qu'il y a dans ces deux... quand, en quelque sorte, dans ces deux protagonistes, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça dérape. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça réussisse, et il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça dérape. Donc il faut se méfier, effectivement, de ces tendances qui ne sont pas du tout centrifugeuses.
Le diable est dans les détails.
Voilà. Oui, vous voulez réagir?
Oui, les images qu'on a vues tout à l'heure en début d'émission sont très significatives. On a vu des images de liesse à Ramallah, à Gaza, et on a vu les images d'angoisse à Tel Aviv. Alors... du point de vue des Palestiniens, si l'accord est mis en œuvre, s'il est signé, s'il est mis en œuvre, c'est très positif. C'est très positif dans une situation qui est catastrophique. Mais ça veut dire que les troupes israéliennes se retirent, ce que Netanyahou n'acceptait pas jusqu'à présent. Pendant des mois et des mois, il disait qu'il voulait conserver le corridor de Philadelphie entre l'Égypte et Gaza. Le corridor de Netzarim qui coupait la bande de Gaza en deux, les Israéliens devraient l'évacuer si cet accord est signé. Donc pour les Palestiniens, ça permettra à ces familles palestiniennes de revenir dans ce qui reste de leur domicile. Mais ça a un effet concret. Pour les Israéliens, c'est le supplice de la goutte d'eau, parce que les otages vont être libérés goutte à goutte, les uns après les autres, dans des conditions dont on ne sait pas qui sera vivant, qui sera mort.
Alors justement, Michel Thomas, on va en parler avec vous, Fanny Veil. Qui est encore aux mains du Hamas à propos de ces otages?
Sur les 251 otages enlevés le 7 octobre 2023, 117 ont déjà été libérés, notamment, principalement, en fait, lors de la semaine de trêve de novembre 2023. Aujourd'hui, il serait encore 94 détenus par le Hamas, 60 vivants a priori, 34 sont présumés morts par l'armée israélienne. Parmi les otages qui seraient encore en vie, une majorité sont des Israéliens binationaux, dont 3 Américains et 2 Français enlevés dans un kibboutz. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, indiquait ce matin d'ailleurs que la France n'avait pas eu de nouvelles de ces deux otages depuis des mois. En l'absence de preuves de vie, d'ailleurs ces chiffres ne sont pas totalement certains, le Hamas doit encore fournir une liste précise des otages qui sont effectivement encore en vie. Donc, effectivement, vous en parliez, les familles ne savent pas encore si leur proche enlevé fera partie ou non des 33 otages qui seront libérés lors de la première phase du cessez-le-feu. Beaucoup d'entre elles, dont les espoirs ont été fréquemment douchés ces derniers mois, craignent d'ailleurs que les libérations n'aboutissent pas. Jean-Paul Chagnolo, est-ce que vous pensez que ces familles ont raison de s'inquiéter, ou est-ce que peut-être cet accord ce cessez-le-feu a suffisamment de chances d'être bien appliqué, d'être respecté pour que tous les otages puissent être libérés finalement?
Pour être franc, je n'en sais rien, et personne n'en sait rien, car tout peut arriver, effectivement. La seule chose qui me paraît importante dans cette affaire, et la seule chose sûre, c'est que les États-Unis sont déterminés à ce que cet accord soit mis en œuvre. Et quand je dis les États-Unis, tout le monde l'aura compris, évidemment, il faut parler, même si on n'a pas envie d'en parler, de Donald Trump. Il a été le premier à annoncer les choses. Il a devancé même Biden. Et il est évident que, pour lui, il semblerait qu'il s'installe bientôt, comme vous le savez, c'est-à-dire lundi prochain. Eh bien, il est évident que s'il s'installe avec un accord qui a réussi à tenir, même quelques heures, puisque en principe ça démarre dimanche, c'est important politiquement. Donc, si vous voulez, c'est ça. Mais la deuxième chose qui est beaucoup plus incertaine, c'est le long terme, enfin, disons le moyen terme. Et la question aussi, c'est que Trump ait fait pression sur Netanyahou, c'est une évidence. Mais en même temps, connaissant Netanyahou, qu'est-ce qu'il a pu obtenir en échange de tout cela? Et en échange de tout cela, qu'est-ce qui tient à cœur, si j'ose dire, à Netanyahou? C'est l'idée que ce qui est important, ce n'est pas Gaza, c'est la Cisjordanie. Et c'est la colonisation en Cisjordanie.
Qu'elle puisse continuer, c'est ça que vous voulez dire.
Qu'elle puisse s'accélérer. Et quel est l'objectif d'une colonisation à outrance très dense? C'est évidemment l'annexion. Et donc, est-ce qu'il y a eu un début de tractation sur ces bases? Ce n'est pas du tout exclu. Et on le saura dans les prochaines semaines. Mais il est bien clair que les choses ne sont pas simplement, même si c'est fondamental, dans la réalisation de cet accord. Il y a autre chose, car tout est lié, bien entendu.
Il faut préciser que le Netanyahou, sa coalition, il l'a remaniée aussi, Patricia Alemonière, c'est-à-dire qu'il peut aussi aujourd'hui se passer de ses ministres d'extrême droite dans son gouvernement, ce qui lui permet aussi d'accepter cet accord avec le Hamas. C'est ça aussi la nouvelle donne?
Alors, je ne pense pas, en tout cas, il a les mains libres, mais il a fait ce remaniement il y a déjà un certain temps, à l'automne, alors qu'on parlait déjà de ce plan de paix qui est effectivement est sur la table depuis le mois de mai. Donc, il aurait bien pu, effectivement, grâce à cette liberté de manœuvre qu'il a, parce qu'il a passé un accord avec une formation nationaliste à l'automne, et donc, effectivement, il avait les mains libres.
Donc, il a attendu Trump, pour vous, c'est évident?
Mais évidemment, Trump... Et là, alors, savoir ce qui s'est passé dans cette fameuse rencontre qu'il y a eu entre son envoyé spécial et Donald Trump, jour de Shabbat, où en général, les Israéliens ne reçoivent personne, ni même le Premier ministre. Donc là, l'envoyé spécial de Trump, qui est un homme d'affaires déterminé, convaincu et qui ne mâche pas ses mots, dit-on dans son entourage, eh bien, quelle négociation s'est passée avec Trump? Alors, effectivement, il y a la question de la Cisjordanie, mais il y a d'autres questions. Il y a la question de l'Iran aussi, qui est une autre obsession israélienne. Donc, dans les deals, il y a l'annexion, il y a, comme le Golan a déjà été reconnu par Donald Trump, vous le savez, comme étant faisant partie d'Israël, donc la Cisjordanie, pourquoi pas un jour, il y a la Cisjordanie, il y a l'Iran, et puis il y a aussi les garanties de sécurité militaire dont a besoin Israël.
Michel Taubman, voilà. Ça témoigne quand même de la nouvelle diplomatie de Trump.
Attendez, c'est un homme d'affaires qui ne connaît pas grand-chose à la diplomatie, que Trump a envoyé là-bas, qui s'est imposé le samedi dans la journée, alors que normalement, un Premier ministre israélien, on ne le dérange pas un samedi en pleine journée, et qui a imposé les conditions de Trump, parce qu'il y a des choses dont Netanyahou ne voulait pas. Il ne voulait pas retirer les troupes israéliennes des deux corridors dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça qu'on lui
demande. Donc Trump l'a fait céder là-dessus, via son émissaire.
Et c'est ça que les ministres d'extrême droite, ils sont quand même 14, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tomber, si les deux partis d'extrême droite se retirent, ils peuvent faire tomber le gouvernement.
Ils peuvent encore faire tomber le gouvernement.
Mais c'est ça qu'ils ne digèrent pas. Et puis surtout, il y a une chose, ce serait un recul aussi important de la part de Netanyahou par rapport à son aile droite, ça voudrait dire qu'on renoncerait à réannexer Gaza et à remettre des implantations juives à l'intérieur de Gaza. Donc tout ça est important. Alors si les choses se déroulent comme je l'espère, c'est-à-dire si les armes se taisent, enfin les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes vont pouvoir s'exprimer. Les dirigeants, on sait ce qu'ils veulent, mais il faut aussi qu'on rediscute maintenant des critères, et il faut que dans cet espace qui est aujourd'hui dominé par Israël, qui va du fleuve à la mer, comme on dit, du Jourdain à la Méditerranée, il faut que tous les habitants aient les mêmes droits. Les droits égaux.
Alors, la solution politique...
Est-ce que ça sera sous la forme de deux États?
On va en parler tout à l'heure, Mais pour revenir, Patricia Alemonière, pour revenir à Donald Trump, juste, on voudrait vous soumettre une archive afin que vous vérifiez que ce n'est pas la première fois que le futur 47e président des États-Unis s'empare du dossier israélo-palestinien, retour sur les accords d'Abraham qui avaient été signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche.
L'actualité internationale avec un accord historique. Les représentants des Émirats Arabes Unis et de Bahreïn ont signé un accord de paix avec ceux d'Israël à la Maison-Blanche, à Washington. Une victoire pour Donald Trump. Jusqu'ici, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à avoir conclu un accord de paix avec l'État hébreu. Les Palestiniens parlent de jours sombres dans l'histoire du monde arabe.
Jean-Paul Chagnolot, ils ont capoté hein, ces accords ou pas? Ou est-ce que Donald Trump, maintenant, va tenter de relancer une géopolitique globale et d'incorporer l'Arabie saoudite? C'est ça, maintenant, qu'il veut faire?
Je crois qu'ils ne vont pas capoter. Les intérêts des États arabes sont clairement enracinés dans ces accords, que d'ailleurs beaucoup de ces États souhaitaient depuis longtemps, mais ils ne pouvaient pas le faire. Et bien entendu, s'il n'y avait pas eu le 7 octobre, l'Arabie saoudite y serait, pour des raisons qui tiennent au nucléaire, qui tiennent à la sécurité, qui tiennent au commerce, pour plein de raisons, c'est évident. Maintenant, ce schéma étant en place, il faut sans doute l'amender, le modifier, et la question est de savoir si les Saoudiens, car ce sont eux les maîtres du jeu dans cette affaire, à mon avis, eh bien s'ils vont continuer à accepter l'idée d'un accord Abraham avec une condition, et cette condition, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'il y ait un règlement de la question palestinienne et qu'il y ait un État palestinien. Alors évidemment, ça paraît aujourd'hui complètement utopique, mais même dans la jeunesse saoudienne, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, par exemple, de raison, la jeunesse saoudienne est vent debout contre l'idée d'un accord bilatéral qui ferait, la mise à l'écart de la question palestinienne. Donc, vous savez que cette proposition-là n'est rien d'autre qu'un plan qui date de 2002, c'est-à-dire la Ligue arabe avait proposé déjà à Israël, on reconnaît Israël et en échange, il faudra qu'il y ait un État palestinien. Donc, vous voyez, c'est toujours les mêmes histoires. Et là, peut-être, il y a une voie très étroite.
C'est parmi les pétromonarchies arabes qui vont contribuer au financement de la reconstruction de Gaza, parce que ça va coûter des
dizaines de milliards, hein, d'après les estimations, puisque 70% à peu près des infrastructures et des bâtiments sont détruits, donc pour des années, effectivement. Mais les pétromonarchies sont prêtes à y aller, mais pas n'importe comment, parce que c'est quand même un guépier. Il y a des gangs, il n'y a pas de sécurité, ils ne sont pas prêts à injecter comme ça des milliards sans des garanties. Sans des garanties de sécurité. Et puis, il y a le rêve de Donald Trump et le rêve du prince Ben Salman, qui tous les deux voient très bien, le prince saoudien, enfin l'homme fort d'Arabie saoudite, qui voit très bien Gaza transformé en resort de luxe pour richissime, c'est-à-dire injecter des milliards pour faire de cette magnifique bande de Gaza avec ses plages, un grand resort. Et là, Trump, l'homme du business, il y trouve son compte. Alors, pas tout de suite, évidemment, c'est pas possible. L'ONU, c'est pas possible. Les plans en deux États, c'est pas... Vous voyez, mais on a ce rêve fou d'individus qui pensent différemment de nous. Quoi.
Alors, cette question de la reconstruction de Gaza, elle est sur la table, vous l'avez dit. Écoutez ce responsable du Hamas qui veut jouer un rôle, bien sûr, dans cette prochaine étape.
أنا كما قلت من خلال الكلام مع الإخوة الوسطاء وأيضا مع عدد من الدول العربية والإسلامية هناك التزام بإعادة إعمار غزة ودعم شعبنا هذا موضوع يحتاج إلى جهد.
Michel Thoman, mais est-ce que le Hamas peut continuer à être un interlocuteur pour Israël, pour les autres pétromonarchies dont on parlait, les pays arabes, pour cette reconstruction? Est-ce que pour l'instant, il est l'interlocuteur qui reste et avec qui il faut compter?
Moi, je ne vous donne pas mon opinion.
Ce n'est pas votre opinion, je dis factuellement. Aujourd'hui, est-ce qu'il a été affaibli ou éradiqué?
Le Hamas n'a pas été détruit en tant qu'armée. Ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus la capacité de refaire un 7 octobre. Mais le Hamas continue d'exister comme force civile qui
organise la société. Et d'être populaire auprès de la jeunesse.
Alors ça écoutez, là, moi, j'ai d'après les sources palestiniennes, ils disent qu'aujourd'hui, ils payent très cher ce qui s'est passé. Mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la question des deux États. Il faut cesser de répéter la solution à deux États, la solution à deux États, la solution à deux États. C'est-à-dire, il faut que les chancelleries cessent de répéter ça comme une litanie, comme une prière, en sachant très bien, et vous le savez, quand on discute avec des diplomates, ils savent très bien que ça ne se produira pas. Donc, il faut se mettre autour d'une table, il faut voir de quelle manière on peut faire en sorte que les deux peuples puissent vivre en paix, sur quelle formule étatique, confédération, autonomie palestinienne. En tout cas, il faut commencer déjà par mettre en place à Gaza une équipe palestinienne.
Mais qui Pardon, bah, Jean-Paul Chagnolot, mais attendez, qui, justement?
Il y a des gens, il y a des gens,
bah alors, non, mais on veut savoir qui.
Il y a des gens compétents parmi les Palestiniens.
Vous ne pensez pas à Mahmoud Abbas, qui a 89 ans et qui est déconsidéré,
non, attendez, non, il y a toute une génération d'élus locaux, par exemple, d'accord, en Cisjordanie. Il y a des gens, à Gaza, il y avait 22 universités. Il y a des gens capables de prendre
ils
le
peuvent, relève. Ils peuvent prendre le couvent, ces gens-là, Jean-Paul Chagnolot. Ils peuvent émerger.
Je pense qu'il faut évidemment...
Sur la relève et sur la solution politique, pas deux États.
En quelques mots, simplement, oui, il faut évidemment ressourcer l'autorité, non pas l'autorité palestinienne en tant que structure, mais l'autorité palestinienne en tant que mode de gouvernance, dans son ensemble. Il y a eu des élections qui ont été avortées en 2021. Si elles avaient eu lieu, on n'en serait pas là. Donc il faut faire de même qu'il faut des nouvelles élections en Israël. Il faut un processus politique.
Les élections qui devaient avoir lieu à Gaza, vous dites, ou dans,
non, non, c'était l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Et bah, Mahmoud Abbas, de peur de les perdre, il les aurait perdus, les a annulés. Donc il faut ressourcer cette autorité palestinienne. Il faut qu'il y ait à nouveau des représentants palestiniens. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça, c'est la première chose. Sur la seconde chose, la question de l'État, le droit international nous donne plein d'éléments pour dire que la seule solution, c'est la séparation entre les peuples. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions. Séparation. Alors, séparation, ça peut prendre différentes formes, mais à un moment donné, la séparation implique que chacun soit libre de son destin. Et quand on est libre de son destin, ça a un mot en termes juridiques, c'est-à-dire un État. Et donc, même si ça paraît impossible aujourd'hui, c'est cette direction.
Quoi,
et
un
c'est
État la seule. Binational
un État, non, un État palestinien à côté de l'État d'Israël. L'État binational aujourd'hui, les deux sociétés sont dans un État de fracture si profonde que c'est inimaginable, que ce soit chez les Israéliens ou chez les Palestiniens. Et donc, il faut une perspective qui soit, au fond, chacun chez soi. Et ça, c'est la seule option, et la seule option juridiquement parlant, ça veut dire deux États.
Sauf que cette perspective est impossible aujourd'hui. Donc, quel est le moyen, quels sont les chemins, quelles sont les voies pour arriver à une autodétermination des Palestiniens ?
Patricia Lémonière.
Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou voulait la mort du Hamas, ça reste l'interlocuteur à Doha pour discuter, malgré tout.
Mmh. Et Joe ça, Biden c'est un point. Joe Biden a dit la guerre est finie. Il a raison.
Et Joe Biden a dit la guerre est finie, la guerre n'est pas finie, et la paix, en tout cas, n'est pas acquise.
La guerre est finie quand il y a la paix, et une paix négociée. Et donc, la guerre sera finie lorsqu'il y a un règlement politique global, sur les bases qu'on vient de dire. Sinon, eh bien, la guerre reprendra sous une forme ou sous une autre avec les jeunes générations. C'est une évidence.
Mais il y a quelque chose que Benjamin Netanyahou n'a jamais dit, c'est ce qu'il voulait après.
Mais est-ce qu'il est renforcé, lui, politiquement, en Israël ou pas ?
Ce qui est important, c'est qu'il n'a jamais dit ce qu'il voulait après. Et est-ce qu'il ressort renforcé ? Il était sorti renforcé avec le Liban, mais maintenant, à nouveau, c'est, le Liban, c'est fini pour les yeux des Israéliens. Et donc, à nouveau, avec sa cote de popularité, s'il y avait des élections aujourd'hui, il n'aurait pas la majorité.
Et les conditions lesquelles ont été signés les accords d'Abraham ont changé, c'était des accords contre l'Iran. Contre l'axe de la résistance iranienne, qui est aujourd'hui affaibli. Et le grand vainqueur de cet épisode commencé le 7 octobre, c'est quand même l'Arabie saoudite. Sans tirer un coup de feu, sans verser une goutte de sang, sans dépenser un dollar, l'Arabie saoudite, aujourd'hui, a réussi à faire en sorte qu'Israël affaiblisse son principal rival, l'Iran, affaiblisse durablement le Hezbollah, et que l'Arabie saoudite puisse mettre un pied, puisse renforcer ses positions au Liban, en Syrie et au Yémen. Et voilà, donc, et le Gaza, et à Gaza, le Hamas n'a pas totalement disparu. Donc, c'est pas mal pour l'Arabie saoudite.
Merci de cette conclusion, et merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.